بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، remercions الله تبارك وتعالى pour ses nombreux bienfaits et du fait qu'il nous a à nouveau réunis en ce lieu afin d'étudier ensemble sa noble religion à propos de laquelle il a dit « Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam ». Certes, la religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Et à propos de laquelle il a également dit « وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ » Et quiconque recherche autre que l'islam comme religion, alors cela ne sera pas accepté de lui et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. C'est donc un immense bienfait que de pouvoir se réunir afin d'étudier cette noble religion à partir des références de cette dernière, telles que le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté, as-salaf as-salih, par le biais des livres qui ont été écrits par les ulama de l'islam, aussi bien anciens que contemporains, rahimahumullahu jami'an, qu'Allah leur fasse à tous miséricorde. Après avoir achevé, grâce à Allah tabaraka wa ta'ala, la lecture et la tentative de traduction du livre Al-Mu'taqad al-Sahih du noble shaykh, le défunt Abdussalam ibn Barjas, rahimahullahu ta'ala, on va aborder maintenant un autre livre très important et très célèbre, qui n'est autre que le livre Al-Arba'un Al-Nawawiyya et son commentaire qui a été écrit par le noble Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad Hafidhahullahu Ta'ala. On commence sans plus tarder dans la lecture de ce livre-là. Le Cheikh a donc dit en introduction: بسم الله الرحمن الرحيم لوانج الله. Une petite parenthèse ici, ce qu'on va faire c'est la lecture. Et étant donné que c'est une traduction et que ça reste une œuvre humaine, si de temps à autre il est possible qu'on rencontre certains sujets qui ou certains points, certains passages qui méritent d'être reformulés, il est possible qu'on le fasse et ça reste donc ici matière à discussion. Et il n'y ait personne parmi les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala sans que tu ne prennes de lui certaines choses et que tu en délaisses d'autres, si ce n'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Cheikh Abdel Mohsin hafidhahullah a dit dans son introduction, Bismillahir Rahmanir Rahim, louange à Allah qui accorde ses dons avec générosité et comble de ses bienfaits. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul et sans associé, le détenteur de la grâce, la bienfaisance, la générosité, la munificence, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager, le maître est des Arabes et non-Arabes, que le Seigneur a spécifiquement comblé du don d'une élocution concise. L'élocution concise, ici, ce qui est visé, c'est « Jawami' al-Kalim ». Et on rajoutera, en plus du fait que cette élocution soit concise, le fait qu'elle est éloquente. Le prophète, alayhi salatu wassalam, Allah tabaraka wa ta'ala, lui a accordé le don d'une élocution à la fois concise et éloquente. C'est ce qu'on appelle « Jawami' al-Kalim ». Et Cheikh Abdel Mohsin de continuer en disant: oh Allah, couvre d'éloges, salue et bénis-le, ainsi que sa famille, distinguée et noble, ses compagnons flambeaux des ténèbres et de l'obscurité, qu'Allah a honoré en les plaçant au rang les plus méritoires parmi les membres de cette communauté, une communauté qui jouit elle-même du plus noble statut parmi toutes les autres, et qu'Allah comble également tout individu leur ayant succédé en se suffisant de suivre leurs traces, et dont le cœur est pur et préservé de toute rancœur envers les croyants. Donc dans cette introduction, Dans ce début d'introduction, le Cheikh Abdel Mohsin, Hafizahullah Ta'ala, a adressé les louanges à Allah Tabaraka wa Ta'ala et a attesté de son unicité. De même, du fait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager, et il a invoqué Allah Tabaraka wa Ta'ala afin qu'il le couvre d'éloges, ainsi que sa famille et ses compagnons. Donc, il a invoqué en faveur de la famille du prophète alayhi salatu wa salam et en faveur de ses compagnons. Radiallahu anhum. Et il est important ici d'avoir réuni ces deux choses-là. Le fait d'invoquer en faveur de la famille du prophète alayhi salatu wa salam, c'est une manière de se désavouer de la secte des Nawasib qui ont considéré comme ennemis les membres de la famille du prophète alayhi salatu wa salam, et de se désavouer des Rawafid qui, quant à eux, se sont déclarés ennemis des compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh Abdel Mohsin continue en disant ceci dit, parmi les thèmes sur lesquels les savants ont écrit concernant les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, on retrouve les 40 hadiths. Il s'agit d'une compilation de 40 hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ce en raison d'un hadith faisant mention du mérite qu'il y a à mémoriser 40 des hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. An-Nawawi l'a mentionné dans son introduction des 40 hadiths. Et il l'a rapporté de 9 des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'il nomma. Puis il dit, les grands spécialistes du hadith sont unanimes pour dire qu'il est un hadith da'if. Da'if, c'est-à-dire faible. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il est des hadiths qui sont authentiques, dont l'attribution au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est authentique, d'autres qui sont fiables, d'autres qui sont faibles, d'autres qui sont très faibles, et d'autres qui sont forgés et inventés. Ces derniers sont appelés hadiths dans le sens où, à un moment donné, ils ont été attribués au prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'en vérité, ils soient caduques et qu'ils soient mensongers. Donc le hadith qui fait mention du mérite de mémoriser pour cette communauté 40 hadiths est un hadith qui est da'if, c'est-à-dire faible. Même si ses chaînes de transmission sont multiples. Fin de la parole donc de Nawawi. Cheikh Abdel Mohsin de continuer, il mentionna également que ce n'est pas sur ce hadith qu'il s'appuya pour écrire ces 40 hadiths, mais plutôt sur d'autres hadiths comme sa parole sallallahu alayhi wa sallam, que le présent transmette à l'absent, et sa parole, qu'Allah illumine le visage de celui qui entend mes propos et les retient. Il cita 13 savants qui écrivirent des 40 hadiths. Le premier d'entre eux est Abdullah ibn al-Mubarak, et le dernier Abu Bakr al-Bayhaqi. Après les avoir mentionnés, il dit, et d'innombrables autres parmi les anciens et les contemporains. Puis il dit, certains savants ont compilé 40 hadiths concernant les fondements de la religion, d'autres ses subdivisions, l'ascétisme, le comportement et les sermons. Ici, il y a un petit manque entre les subdivisions et l'ascétisme qui n'a pas été mentionné par le traducteur et qui est pourtant mentionné dans l'original en arabe, c'est le djihad, entre les subdivisions et l'ascétisme. Le Cheikh Abdel Mohsin de continuer donc en citant cette parole de Nawawi qui dit « Toutes ces compilations relèvent de nobles intentions. » Le fait d'avoir compilé des hadiths dans ces sujets-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée ceux qui en sont à l'initiative. Pour ma part, j'ai pensé à compiler 40 hadiths sur un terme beaucoup plus important que tout cela. 40 hadiths qui engloberaient l'ensemble de ces thèmes. Et chacun de ces hadiths contiendrait une des règles éminentes de la religion et serait décrit par les savants comme étant un axe central de l'islam ou représenterait la moitié ou le tiers de l'islam et d'autres choses de cet acabit. Je me suis attaché à ce que ces 40 hadiths soient authentiques. La plupart sont référencés dans les Sahih d'Al-Bukhari et de Muslim. Je les ai mentionnés sans les chaînes de transmission pour en faciliter la mémorisation et qu'ils soient plus profitables, si Allah le veut. Toute personne qui aspire à l'au-delà doit connaître ces hadiths au vu de l'importance de ces enseignements et de l'ensemble des actes d'obéissance auxquels ils nous invitent, comme cela apparaîtra clairement à qui les méditera. Les hadiths compilés par Nawawi sont au nombre de 42. Donc, Cheikh Abd al-Muhsin de continuer en disant que ces hadiths sont au nombre de 42. Mais il les a nommés les 40 hadiths, sans mentionner le supplément. Cet ouvrage de Nawawi ainsi que Riyad al-Salihin a été plébiscité par les gens. Ainsi, ils sont devenus très célèbres et on leur a accordé une grande importance. Le premier livre venant à l'esprit vers lequel on dirige les débutants dans la science du hadith est les 40 hadiths, Al-Arba'un al-Nawawiyya, de l'imam al-Nawawi. Ibn Rajab al-Hanbali y ajouta 8 hadiths, au sens très nombreux, complétant ainsi à 50. Il les expliqua dans un livre qu'il intitula « Jami' al-Ulum wal-Hikam » fi sharh 50 hadith min jawami' al-kalam. Et ici c'est al-kalim. En vérité c'est al-kalim, pas al-kalam. Naam, il n'a toujours pas appelé. Vous êtes là-bas? Il a dû avoir un contretemps et il n'a pas. Il a dû avoir un contretemps, j'arrive pas à l'avoir et lui il n'appelle pas. Ah. Il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau ici. Tu essaies de me passer le tien? Ah, yeah. Donc c'est Jawami' al-Kalim. Les commentaires des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi sont très nombreux. Certains sont concis et d'autres plus longs. Et le plus vaste d'entre eux est le commentaire d'Ibn Rajab al-Hanbali. J'ai estimé qu'il serait bon de commenter ces 40 hadiths et le supplément d'Ibn Rajab d'une manière intermédiaire proche de la concision, réunissant le commentaire de chaque hadith en quelques points, en citant à la fin de chaque hadith les enseignements qui pouvaient en être extraits. Pour écrire ce livre, je me suis basé sur les commentaires des 40 hadiths écrits par Nawawi, Ibn Daqiq al-Aid, Ibn Rajab et Ibn al-Uthaymin, de même que Fath al-Bari, d'Ibn Hajar al-Asqalani, et je l'ai intitulé Fath al-Qawi al-Matin fi Sharh al-Arba'in wa Tatimmat al-Khamsin. Al-Matin, qui est donc compris dans le titre, Fath al-Qawi al-Matin, est un des noms d'Allah, qui dit dans Sourate al-Dhariyat Inna Allah huwa al-Razzaq dhul quwwati al-Matin. En vérité, c'est Allah qui accorde par excellence toute subsistance, le détenteur de la force inébranlable. Alors ici, ils ont mis inébranlable. En vérité, c'est l'inébranlable. Car inébranlable, ça ne renvoie pas à la force. Mais c'est plutôt la traduction approximative du nom d'Allah, Al-Matin. Donc l'inébranlable en rajoutant un L avec une apostrophe. Al-Matin désigne donc celui qui est doué d'une grande force, comme cela est mentionné dans les ouvrages d'exégèse. Je conseille aux étudiants de mémoriser ces 50 hadiths qui marquent le don de concision, et donc, comme on l'a dit précédemment, le don de concision et d'éloquence du noble messager sallallahu alayhi wa sallam. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de rendre ce commentaire aussi profitable que son texte de base. Il est certes celui qui entend et répond aux invocations, qu'Allah couvre d'éloge, salue et bénisse son serviteur et prophète Muhammad, ainsi que sa famille et tout. Ses compagnons. Dans cette introduction, on a pu aborder plusieurs points. Premièrement, l'historique de la composition d'ouvrages regroupant 40 hadiths. Et l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, a dit que de nombreux savants anciens, ainsi que des savants qui lui étaient contemporains, ont écrit dans ce domaine-là. Il a dit que le premier d'entre eux, c'était Abdullah ibn al-Mubarak, et que le dernier d'entre eux, c'était Abu Bakr al-Bayhaqi, rahimahumallah. Et après eux, et après l'imam al-Nawawi, il en est d'autres qui ont composé dans ce domaine-là. Chacun d'entre eux, donc, s'est attelé à réunir des hadiths dans certains domaines de la religion. Quant à l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il a dit, pour ma part, j'ai pensé à compiler 40 hadiths sur un terme beaucoup plus important que tout cela. 40 hadiths qui engloberaient l'ensemble de ces thèmes. Et chacun de ces hadiths contiendrait une des règles éminentes de la religion et serait décrit par les savants comme étant un axe central de l'islam, ou représenterait la moitié ou le tiers de l'islam, et d'autres choses de cet acabit. Donc il a opté pour le fait de réunir des hadiths qui mettent en évidence des règles génériques de la religion. Et c'est là quelque chose de très important. Quant à toi, dans ton apprentissage, tu te dois d'accorder une importance toute particulière à la connaissance et à l'assimilation des règles génériques, des règles générales de la religion, qui englobent bon nombre de sujets particuliers. C'est d'ailleurs pour cela que l'imam Sa'di, rahimahullah ta'ala, disait dans Al-Qawa'id al-Fiqhiyya, « Fahris ala fahmika lil-qawa'idi, jami'ati al-masaili shawaridi, fatakhtafi fil-ilmi, ou fatartaqi fil-ilmi khayra murtaqa, wa taqtafi subla alladhi qad wuffiqa. » Accorde donc une importance toute particulière à la connaissance des règles génériques qui réunissent en elles beaucoup de sujets particuliers, afin que tu progresses dans le savoir de la meilleure des manières et que tu suives la voie de ceux qui t'ont précédé. C'est donc là quelque chose d'important que d'accorder de l'importance à cela. Et il s'est basé sur des hadiths généraux faisant état du mérite de retenir et de transmettre les hadiths afin de réunir ces hadiths-là. Quant aux hadiths rapportés sur le mérite de réunir 40 hadiths pour cette communauté, c'est un hadith qui est faible comme nous l'avons vu précédemment. Également, on a pu retenir de cette introduction-là l'importance de l'authenticité des hadiths et que tu te dois de t'assurer de l'authenticité des hadiths que tu vas transmettre, que tu vas écrire, que tu vas diffuser. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a fait en sorte que son livre ne contienne que des hadiths qui sont authentiques et la plupart ils sont rapportés par Al-Bukhari et Muslim. Quant au reste des hadiths qui ne sont pas rapportés par Al-Bukhari et Muslim dans ce livre, alors leur authentification va être quelque chose de relatif. Il est possible qu'ils soient considérés authentiques par l'auteur rahimahullah et que d'autres parmi les ulama de l'islam les considèrent différemment. Et on aura l'occasion d'aborder cela en temps voulu, Inch'Allah. Également un autre point, c'est le don qui a été attribué au prophète alayhi salatu wassalam de faire preuve d'élocution concise et éloquente. Le prophète alayhi salatu wassalam, il avait la possibilité, la capacité, en quelques mots, d'exprimer de nombreux sens éminents et subtils. Comme on va s'en rendre compte tout au long de notre lecture de ces hadiths et de leurs commentaires. Également, autre point que l'on peut retenir ici, les travaux des ulama qui ont été faits autour du livre, les 40 hadiths d'An-Nawawi. Donc, premièrement, il y a l'imam An-Nawawi, rahimahullah ta'ala, qui a réuni ces 40 hadiths, plus précisément 42. L'imam An-Nawawi, qui a vécu au 7e siècle de l'Hégire et qui est mort en 676. Et il y a de nombreux ulama qui ont commenté ce livre-là, certains de manière concise et d'autres de manière plus développée. Parmi eux, il y a Ibn Daqiq al-Aïd, et parmi eux également, il y a Ibn Rajab al-Hanbali dans son livre exceptionnel intitulé « Jami' al-Ulum wal-Hikam ». Ibn Rajab qui a vécu au 8e siècle de l'Hégire et qui est mort en 795. Parmi les ulama contemporains, il y en a qui ont commenté également ce livre-là. Parmi eux, Le noble cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, et avant lui le cheikh Mohamed Ibn Salah Al-Uthaymin et d'autres. Et le cheikh Abdel Mohsin, il s'est basé dans son commentaire sur les travaux des autres ulama, aussi bien anciens que contemporains. Comme il a lui-même dit, il s'est basé notamment sur les travaux d'Ibn Rajab, d'Ibn Daqiq Al-Aïd et d'Ibn Al-Uthaymin, rahimahumullah, jami'an. Et on peut tirer de cela plusieurs leçons. Premièrement, l'humilité du savant, qui n'hésite pas à profiter des travaux de certains de ses contemporains. Deuxièmement, le fait que le savant, pédagogue, celui qui est un modèle pour la communauté, c'est celui qui, au préalable, a pris les savants qui l'ont précédé comme modèle. Et la personne ne pourra réellement être un modèle que si elle-même, elle a pris les savants de la Sunna qui l'ont précédé comme modèle. C'est là quelque chose de très important. C'est là quelque chose de très important. Et c'est pour cela que tu vois que les ulama de la Sunna, ils n'hésitent pas à se baser et à revenir aux travaux des autres ulama, chacun complétant les efforts de l'autre. Suite à cela, donc, on a abordé le premier hadith. L'imam al-Nawawi a donc dit, « Amamin al-Mu'minin, Abi Hafs, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, قال, سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرئ ما نوى, فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله, ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. Le commandeur des croyants Abu Hafs Omar ibn al-Khattab رضي الله عنه rapporte, yarhamukallah, il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, les actes ne valent que par leurs intentions, ou plus précisément par les intentions, ça a le même sens. Et chacun sera rétribué selon ses intentions, ou plus précisément, et chacun ne sera rétribué que selon ses intentions, en rajoutant cette notion de restriction. Celui qui émigre pour Allah et son messager, son émigration lui sera comptée pour Allah et son messager. Et celui qui émigre pour obtenir un bien de ce bon monde, ou pour épouser une femme, son émigration lui sera comptée selon ce qu'il recherchait. Rapporté par les deux imams des savants du hadith, Abu Abdillah ibn Muhammad ibn Ismail ibn al-Mughira ibn al-Bardizba al-Bukhari. Et ici, il y a Ibn Ibrahim qui a, entre guillemets, sauté, après Ibn Ismail. L'imam al-Bukhari, c'était Abu Abdillah ibn Muhammad ibn Ismail. Ou Muhammad, ils ont rajouté Ibn, c'est Muhammad. Abu Abdillah Muhammad, donc il faut barrer Ibn. Muhammad ibn Ismail, ensuite il faut rajouter Ibn Ibrahim, Ibn al-Mughira, Ibn al-Bardizba, al-Bukhari, de la ville de Bukhara. Et Abu al-Hussein, Muslim ibn al-Hajjaj, Ibn Muslim, al-Qushayri, al-Naysaburi, dans leurs deux sahih, c'est-à-dire dans leurs deux recueils authentiques, qui sont les deux ouvrages les plus authentiques écrits, c'est-à-dire par les hommes. Le Cheikh Abdel Mohsin, de dire un commentaire, rapporté par Al-Bukhari et Muslim et les auteurs des Sunan, ainsi que d'autres, l'ont rapporté uniquement de Omar, Al-Qama ibn Waqqas al-Laythi, Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi, et Yahya ibn Sa'id al-Ansari, puis les rapporteurs furent plus nombreux. Ici, il y a une grande confusion qui est survenue, au minimum dans la plume du traducteur. Et ce, lorsqu'il a dit, l'ont rapporté uniquement de Omar, Al-Qama ibn Waqqas al-Laythi, Mohammed ibn Ibrahim al-Taymi et Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Puis les rapporteurs furent plus nombreux. Ce qui est correct ici, c'est de dire, l'a rapporté uniquement de Omar, Al-Qama ibn Waqqas al-Laythi. Et l'a rapporté uniquement de Al-Qama, Mohammed ibn Ibrahim al-Taymi. Et l'a rapporté uniquement de Mohammed ibn Ibrahim al-Taymi, Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Puis les rapporteurs furent nombreux. Car ici, ce que l'on comprend de ce qui a été présenté par le traducteur, c'est que Al-Qama, Mohammed ibn Ibrahim et Yahya ibn Sa'id l'ont tous trois rapporté de Omar. Et qu'après cela, donc, les rapporteurs furent nombreux. Or, Al-Qama, il est dans un chaînon de la chaîne de transmission. Ensuite, il y a Mohammed ibn Ibrahim, et ensuite il y a Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Et après Yahya ibn Sa'id al-Ansari, il y a de nombreux rapporteurs qui l'ont rapporté de lui, comme on va le voir, Inch'Allah. Il compte parmi les hadiths de Sahih al-Bukhari, ne comportant qu'un seul transmetteur par degré. Et il en marque le début. Il en est de même pour sa conclusion qui est le hadith d'Abu Huraira, de parole aimée du tout miséricordieux, qui compte également parmi les hadiths du Sahih, ne comportant qu'un transmetteur par degré. De ce premier point, on peut retenir plusieurs choses, plusieurs enseignements, notamment l'authenticité du hadith. Le hadith, donc, de l'intention, a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim, ainsi que par les auteurs des Sunan et d'autres. On peut retenir que ce hadith, c'est un hadith qui est appelé Gharib, à savoir qu'à au moins un stade de sa chaîne de transmission, il ne bénéficie que d'un rapporteur. Or, c'est ici le cas à quatre étapes de cette chaîne de transmission. Omar, il est le seul à l'avoir rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Al-Qama, il est le seul à l'avoir rapporté de Omar. Mohammed ibn Ibrahim, il est le seul à l'avoir rapporté de Al-Qama. Et Yahya ibn Sa'id, il est le seul à l'avoir rapporté de Mohammed ibn Ibrahim. Donc, à quatre étapes de cette chaîne de transmission, tu trouves un seul rapporteur. Et il est donc gharib dans ce sens-là. Et il suffit pour que le hadith soit gharib qu'à un seul stade de sa chaîne de transmission, il y a un seul rapporteur. À partir de là, donc, tu comprends l'imprécision de ce qui a été dit ici, que le traducteur a dit, ne comportant qu'un seul transmetteur par degré, le gharib, comprend minimum un transmetteur, ne serait-ce que dans un seul chaînon. C'est ça ce qui est gharib. Donc l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il a commencé son recueil authentique par un hadith qui est gharib. Étant donné que seul Omar l'a rapporté du messager sallallahu alayhi wa sallam, en plus de ça, seul Al-Qama l'a rapporté de Omar, en plus de cela, seul Mohammed ibn Ibrahim al-Taymi l'a rapporté de Al-Qama, et seul Yahya ibn Sa'id al-Ansari l'a rapporté de Mohammed ibn Ibrahim al-Taymi. Après cela, il y a de nombreux transmetteurs qui l'ont rapporté, de Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Ils sont plus de 200, voire beaucoup plus que cela. Et parmi eux, il y a d'éminents savants de cette communauté, notamment Malik ibn Anas, Sufyan al-Thawri, ainsi qu'Al-Awza'i, de même qu'Ibn al-Mubarak, et d'autres parmi les grands imams de cette communauté. Le Cheikh Abd al-Muhsin, Hafizahullah Ta'ala, a mentionné ici que l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il a commencé son recueil authentique par un hadith qui est gharib, de même qu'il l'a achevé par un hadith qui est gharib. Et il y a fait allusion en disant que c'est le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, d'après Abu Huraira, deux paroles aimées du tout miséricordieux. La suite de ce hadith, non ? Deux paroles aimées du tout miséricordieux, légère sur la langue, lourde sur la balance. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim. L'imam al-Bukhari a achevé l'écriture de son recueil authentique par cet autre hadith, qui est également un hadith gharib, ne comportant qu'un transmetteur, au minimum à un seul sad de sa chaîne de transmission. Et vous n'êtes pas sans savoir, hafizakumullah, qu'un hadith, il se compose d'un texte et d'une chaîne de transmission. D'ailleurs, la chaîne de transmission, c'est la particularité de cette communauté. Les communautés précédentes ne bénéficiaient pas de cela. Alors que cette communauté, c'est la communauté de la chaîne de la transmission. Et c'est là quelque chose de très important. Les hadiths authentiques dont tu as connaissance et que tu es amené à lire ou à entendre, sache qu'ils sont recensés dans des livres de hadiths d'imams connus et fiables de cette communauté. Et ces imams-là, ils ont mentionné leur chaîne de transmission entre eux et le messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est là quelque chose d'important. Et sache que les savants de cette communauté, ils ont fourni des efforts énormes afin de présenter ces chaînes de transmission à la communauté. Il arrivait parfois que pour entendre un hadith, ils parcourent de grandes distances. Ils ont fourni des efforts énormes afin de préserver le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Rahimahumullahu jami'an. Qu'Allah leur fasse à tous miséricorde. Suite à cela, le Cheikh Abdel Mohsin a continué en abordant le deuxième point de son commentaire en disant An-Nawawi débuta les 40 hadiths par ce hadith, à l'exemple d'un groupe de savants qui ont débuté leurs ouvrages de la sorte, parmi lesquels l'imam al-Bukhari qui débuta son sahih, ainsi de même que Abdel Ghani al-Maqdisi dans son ouvrage Umdat al-Ahkam, al-Baghawi dans ses deux ouvrages Masabih al-Sunna et Sharh al-Sunna, et al-Suyuti dans son ouvrage al-Jami' al-Saghir. Au début de son livre al-Majmu' Sharh al-Madhhab, je pense plutôt que c'est al-Muhadhab, Allahu a'lam, al-Nawawi consacra un chapitre dans lequel il dit, chapitre de la sincérité, de la véracité, de la conscience, de l'intention en chaque œuvre, apparente et cachée. Il y mentionna trois versets du Coran, puis le hadith, les actes ne valent que par les intentions, et dit, c'est un hadith authentique, unanimement reconnu, authentique et d'un rang et prestige éminent. Il compte parmi les règles de la foi, son premier et principal pilier. Al-Shafi'i a dit, ce hadith concerne 70 points du fiqh. Il dit également, il représente le tiers de la science. D'autres savants ont eu des propos similaires. Et c'est un des hadiths autour desquels gravite l'islam. On a divergé sur leur nombre, c'est-à-dire le nombre des hadiths autour desquels gravite l'islam, la compréhension de l'islam. On a dit qu'ils étaient au nombre de 3, pour d'autres 4, 2, voire un seul. Je les ai tous réunis dans les 40 hadiths. Ils sont donc au nombre de 40 et aucune personne croyante ne peut s'en passer, car ils sont tous authentiques, réunissent les règles de l'islam dans les fondements, les subdivisions, l'ascétisme, le comportement, les nobles caractères et d'autres choses encore. J'ai débuté par ce hadith pour imiter nos imams et nos savants pieux prédécesseurs, qu'Allah les agrée. C'est par ce hadith que débuta l'imam des savants, donc ici il y a un as qui a sauté, des savants du hadith, sans aucune contestation, Abu Abdillah al-Bukhari, son sahih. Et un groupe de savants a rapporté que les pieux prédécesseurs aimaient débuter leurs ouvrages par ce hadith, afin d'attirer l'attention de l'étudiant sur la correction de l'intention et du fait de viser la face d'Allah dans tous ses actes apparents et cachés. Nous avons rapporté que l'imam Abu Sa'id Abdurrahman ibn Mahdi a dit, si j'avais écrit un livre, j'aurais débuté chacun de ces chapitres par ce hadith. Nous avons également rapporté sa parole, Celui qui veut écrire un livre, qu'il commence par ce hadith. L'imam Abu Sulaiman, Hamd ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Khattab al-Khattabi al-Shafi'i l'imam, a dit dans son ouvrage Al-Ma'alim, les anciens parmi nos enseignants, aimaient débuter par le hadith, les actes ne valent que par les intentions. Chaque chose que l'on débute et commence en religion, en raison de sa nécessité sous toutes ses formes. Ibn Rajab a dit dans Jami' al-Ulum wal-Hikam, les savants sont unanimes sur l'authenticité et l'acceptation de ce hadith. C'est par lui que débute Al-Bukhari l'écriture du Sahih, en guise d'introduction et afin de montrer que toute œuvre par laquelle on ne vise pas la face d'Allah est vaine et ne donne aucun fruit en ce monde et l'au-delà. Dans ce second point abordé par le Cheikh Abdel Mohsin dans son commentaire, on a pu se rendre compte de l'importance de ce hadith du fait de bon nombre, du fait que bon nombre de ulama débutaient leurs livres par ce hadith-là. Et le but dans cela, c'est comme l'a dit l'imam Nawawi, comme vous pouvez le trouver ici, afin d'attirer l'attention de l'étudiant sur la correction de l'intention et du fait de viser la face d'Allah dans tous ses actes apparents et cachés, l'importance de la sincérité. Ala lillahi d-dinul khalis, la religion, le culte sincère, n'appartient qu'à Allah. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَ. Il ne leur aurait été ordonné cependant que d'adorer Allah, seul lui voit un culte exclusif. D'où l'importance d'attirer l'attention en toutes circonstances vers la correction de l'intention et le fait de viser la face d'Allah dans l'ensemble des actes apparents et cachés. L'imam Abdelrahman ibn Mahdi a même dit, si j'avais écrit un livre, j'aurais débuté chacun de ces chapitres par ce hadith, afin que l'étudiant, à chaque fois qu'il aborde un nouveau chapitre, il ait en tête l'importance de la correction de l'intention. Suite à cela, le Cheikh Abdel Mohsin a dit, dans le troisième point, Ibn Rajab a dit, c'est un des hadiths autour desquels gravite la religion. Et on rapporte que Shafi'i a dit qu'il représentait le tiers de la science et concernait 70 points du fiqh. On rapporte également que l'imam Ahmed a dit, les fondements de l'islam reposent sur trois hadiths. Le hadith de Omar, les actes ne valent que par les intentions. Le hadith de Aïcha, celui qui apporte à notre religion une chose qui n'en fait pas partie, cela sera rejeté. Et le hadith de Nu'man ibn Bashir, le licite est évident, et l'illicite est évident. Il dit également, c'est-à-dire Ibn Rajab, dans le même sens que les propos de l'imam Ahmed. Et en vérité, c'est là une explication de la parole de l'imam Ahmed. Il convient donc d'y être attentif. L'ensemble de la religion consiste à accomplir les commandements, délaisser les interdits et s'abstenir des ambiguïtés. Donc trois points. Tout cela est contenu dans le hadith de Nu'man ibn Bashir. Le hadith de Nu'man ibn Bashir, qui c'est qui nous le rappelle? C'est quoi le hadith de Nu'man ibn Bashir? Na'am?
Inna al-halal bayyin wa inna al-haram bayyin wa baynahuma umur mushabihat la ya'lamuhunna kathirun min an-nas.
Na'am, inna al-halal bayyin wa inna al-haram bayyin wa baynahuma umur mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun min an-nas. Le licite est évident et l'illicite est évident, et entre eux il y a des choses équivoques, ambiguës et ambivalentes que bon nombre de personnes ne connaissent pas. Donc dans ce hadith, tu retrouves que sont mentionnés ces trois points qu'Ibn Rajab a mentionnés ici. Ibn Rajab continue en disant, et cela ne peut se réaliser qu'à travers deux choses. La première, que l'acte soit en apparence conforme à la sunna, comme cela est indiqué dans le hadith de Aïcha, celui qui apporte à notre religion une chose qui n'en fait pas partie, cela sera rejeté. On ne va pas tarder à l'aborder, Inch'Allah. Et le deuxième, qu'intérieurement on vise à travers l'acte la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme cela est indiqué dans le hadith de Omar, les actes ne valent que par les intentions. Ibn Rajab, donc vous rajoutez un i à Ibn, rapporta plusieurs paroles de savants concernant les hadiths autour desquels gravite l'islam, c'est-à-dire la compréhension de l'islam. Pour certains, ils sont au nombre de deux, et pour d'autres quatre, cinq, et les hadiths qu'il ajouta aux trois premiers sont le hadith chacun d'entre vous lorsqu'il est créé dans le ventre de sa mère. Ainsi que le hadith fait partie du bon islam que chacun délaisse ce qui ne le concerne pas. J'aurais plutôt dit ici, fait partie de la bonne pratique de l'islam que l'individu délaisse ce qui ne le concerne pas. Fait partie de la bonne pratique de l'islam que l'individu délaisse ce qui ne le concerne pas. Le shir de continue en disant le hadith, Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. Autre hadith qu'on va aborder également. Le hadith également, aucun de vous ne croira réellement que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ainsi que le hadith, on ne doit ni nuire ni à soi ni aux autres. Et le hadith, lorsque je vous ordonne une chose, accomplissez-la en fonction de vos capacités. Ainsi que le hadith, délaisse ce monde et Allah t'aimera, délaisse ce que les gens possèdent et les gens t'aimeront. Donc, j'aurai formulé la traduction de la manière suivante, fais preuve d'ascétisme dans ce bas monde et Allah t'aimera, et renonce à ce que les gens possèdent et les gens t'aimeront. Ainsi que le hadith, la religion c'est le bon conseil, et on peut également dire la religion c'est la loyauté. Dans ce troisième point, qu'a abordé le Cheikh Abdel Mohsin, on a pu prendre connaissance de plusieurs enseignements. Premièrement, la large portée des sens de ce hadith. À tel point que l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, a dit qu'il représentait le tiers de la science et concernait 70 points du fiqh. Et l'imam Ahmed a dit, les fondements de l'islam reposent sur trois hadiths. Et parmi ces hadiths-là, il a cité le hadith de Omar, les actes ne valent que par les intentions. Et c'est là une parole très importante de l'imam Ahmed, qu'il convient de relire et d'assimiler, accompagné de son explication d'Ibn Rajab, que vous trouvez donc mentionnée par le Cheikh Abdel Mohsin dans ce que nous venons de lire. On peut mentionner également une parole intéressante de l'imam Abu Daoud, qui n'est autre que l'élève de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala. Il disait, j'ai écrit 500 000 hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, 500 000 hadiths, il faut savoir qu'un hadith, il peut avoir énormément de chaînes de transmission. Et ce sera considéré comme autant de hadiths. Quand tu entends 500 000 hadiths, ça compte parfois un seul et même hadith et toutes ces chaînes de transmission, ce qui explique donc ce grand nombre. Il a dit, j'ai écrit du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam 500 000 hadiths et j'en ai retenu dans mon livre As-Sunan. Vous savez que l'imam Abu Daoud, il a écrit le livre As-Sunan, Sunan Abi Daoud, qui fait partie des ouvrages de référence en matière de hadith. J'ai retenu 4800 hadiths. Et de ces 4800, il suffit d'en retenir 4. Et ensuite, il a mentionné les hadiths qui, selon lui, sont les hadiths autour desquels gravite la compréhension de la religion. Je mentionne cette parole d'Abu Daoud, rahimahullah, afin d'insister sur l'effort colossal fourni par les ulama. Rends-toi compte que l'imam Abu Daoud, il n'est pas le seul. Il a écrit 500 000 hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, donc, il en a sélectionné 4800. Et de ces 4800, il en a sélectionné 4 qu'il considère comme étant les hadiths autour desquels gravite la compréhension de l'islam. Cette chose-là qui peut paraître anodine, elle montre en vérité la compréhension du savant et du fait qu'il a la capacité de sélectionner dans ce grand nombre de hadiths les hadiths sur lesquels, autour desquels gravite la compréhension de l'islam. Ce qui nous montre de manière claire que les ulémas de l'islam, ils ont une vision globale et exhaustive des textes de la religion. Rahimahumullah. Ce qui met en avant le rang qu'ils occupent dans cette religion. Et ce n'est pas pour rien que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que les savants sont les héritiers des prophètes. Et que les prophètes n'ont laissé en héritage ni dinar ni dirham, mais qu'ils ont plutôt laissé le savoir. Quiconque s'en sera emparé aura ainsi mis la main sur une part importante de l'héritage. Suite à cela, le Cheikh Abdel Mohsin a abordé le quatrième point de son commentaire en disant, concernant sa parole, innamal a'malu bin niyat, les actes ne valent que par les intentions. Innama, donc que, est une particule qui indique l'exclusivité ou la restriction. Et l'article définit elle, qui correspond à le en français, dans les actes, désigne pour certains, c'est-à-dire pour certains ulama, exclusivement les actes d'adoration, et pour d'autres l'ensemble des actes. Ainsi, on est récompensé pour ce qui est un acte d'adoration, par contre, pour ce qui fait partie des habitudes, comme le manger, le boire, le sommeil, celui qui les accomplit n'est récompensé que si son intention est de se renforcer pour accomplir des actes d'obéissance. L'article défini « elle » dans « les intentions » remplace le pronom possessif « ha ». C'est-à-dire les actes ne valent que par leurs intentions. Il y a donc une élision, c'est-à-dire une suppression du terme « considéré ». C'est-à-dire les actes ne sont considérés qu'en fonction de leurs intentions. Dans la langue arabe, l'intention « un niya » désigne le but. Et elle permet de faire la distinction entre les actes d'adoration, entre deux actes obligatoires, entre un acte obligatoire et un acte surérogatoire, et entre les actes d'adoration et les actes mondains, qu'on qualifiera plutôt d'actes liés à ce bas monde, donc les actes liés à l'habitude, comme le bain rituel suite à un état d'impureté majeure, et le bain pour se rafraîchir ou se laver. Dans ce passage-là, on retient plusieurs points importants. Premièrement, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a restreint la valeur des actes dans les intentions qui les motivent. Et ce en disant « innamal a'malu bin niyat ». Les actes ne valent que par les intentions, c'est-à-dire que par leurs intentions. Ce qui signifie que par les intentions qui les motivent. Et cela concerne l'aspect intérieur de l'œuvre. Quant à l'aspect apparent, nous l'aborderons dans le hadith de Aïcha, auquel nous avons fait référence précédemment, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui apporte dans notre religion ce qui n'en fait pas partie, cela sera rejeté. Deuxième point, le fait que le shir a fait référence à une divergence entre les savants concernant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ici. L'article défini, elle, dans les actes, désigne pour certains, c'est-à-dire pour certains ulama, exclusivement les actes d'adoration. C'est-à-dire ils ont restreint cela aux actes d'adoration. Et pour d'autres, c'est-à-dire pour d'autres ulama, l'ensemble des actes. Et c'est ce second avis que l'auteur du commentaire, le Cheikh Abdel Mohsin, a sélectionné. C'est pour cet avis qu'il a opté. Et ce en disant, ainsi on est récompensé pour ce qui est un acte d'adoration. Par contre, pour ce qui fait partie des habitudes, comme le fait de manger, de boire, ou le sommeil, celui qui les accomplit n'est récompensé que si son intention est de se renforcer pour accomplir des actes d'obéissance. Ce qui sous-entend que ces actes liés à l'habitude, le fait de manger, de boire, de dormir, il n'y a pas de récompense ou de punition particulière qui y soit liée en soi. Et la personne, elle sera récompensée si elle a l'intention, en mangeant par exemple, de prendre des forces pour obéir à Allah tabaraka wa ta'ala, de même en buvant, de même en se reposant. Si elle a une bonne intention derrière cela, alors ça va devenir une adoration et elle méritera d'être récompensée par Allah tabaraka wa ta'ala. Si par contre il a une mauvaise intention derrière cela, que la personne, elle mange par exemple pour prendre des forces afin d'accomplir un acte de désobéissance, alors elle sera rétribuée en conséquence et qu'Allah nous en préserve. Également, et donc, on va s'arrêter un peu sur ce point-là, qu'a mentionné le shir. Le fait que tu puisses, à partir d'actes permis, te rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ça te renvoie à une parole des salafs. Les salafs, les plus prédécesseurs de cette communauté, ils me disaient, les adorations des gens insouciants ne sont que des habitudes. La personne, elle accomplit des actes d'adoration, la prière, le jeûne, mais uniquement par habitude, parce qu'elle est insouciante. Et il disait également, tandis que les actes habituels des gens éveillés deviennent des adorations. La personne éveillée, attentive, qui cherche à se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle peut se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, ne serait-ce qu'en mangeant, en buvant ou en se reposant. Et c'est donc là quelque chose d'important à mentionner afin de ne pas laisser passer ces occasions de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala en l'adorant. Également, un autre point, la définition de l'intention. Le fait que l'intention, c'est le but. Al-qasd. Ça, c'est dans la langue arabe. Dans la religion, ça sert à distinguer, comme l'a dit le commentateur ici, les actes d'adoration entre eux. Le fait que tu fasses la distinction entre deux actes obligatoires ou entre un acte obligatoire et un acte surrogatoire. Tu ne vas pas accomplir un acte surrogatoire avec la même intention que lorsque tu accomplis un acte surrogatoire. Tu ne vas pas accomplir la prière de Dhuhr avec la même intention que la prière, par exemple, d'Al Maghrib. Donc, c'est valable entre les actes obligatoires et ceux qui sont surrogatoires, et entre les actes obligatoires les uns les autres. Et également, ça permet de distinguer ce qui relève de l'adoration et ce qui relève de l'habitude, comme l'a mentionné le shir ici, lorsqu'il a donné l'exemple du bain rituel suite à un état d'impureté majeure. Là donc, c'est lié à une adoration. La différence qu'il y a entre cela et le fait de prendre main pour se rafraîchir ou se laver. Cela, ça relève de l'habitude. Donc, tu ne vas pas accomplir. Tu ne vas pas prendre ce bain avec la même intention que lorsque tu vas prendre le bain pour te purifier d'un état d'impureté majeur. Ces distinctions-là, ce sont les ulama du fiqh, les fuqaha qui les mentionnent dans leur livre de fiqh. Et tu trouves que les ulama, ils mentionnent l'intention en lui donnant un autre sens dans d'autres contextes, notamment lorsqu'ils parlent de la sincérité. Lorsqu'ils abordent l'intention, dans son sens purement spirituel, ils visent donc par là la sincérité. Et on retrouve cela dans de nombreux textes qui mentionne soit l'intention, comme on le retrouve ici dans le hadith de Omar, et également dans des textes dans lesquels nous retrouvons que le principe de l'intention est exprimé par d'autres termes, notamment la volonté. Notamment lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu l'akhira » Parmi vous, il en est qui veulent ce bas monde, et parmi vous, il en est qui veulent l'au-delà. Et également la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu. Fais preuve d'endurance en restant avec ceux invoquant leur Seigneur matin et soir, recherchant sa face. Donc tu retrouves ici que cette intention dans le sens de la sincérité est exprimée par d'autres termes. Et tu le retrouves également dans de nombreux autres textes que vous pouvez trouver dans le Coran et la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ce point-là, c'est quelque chose de très important, car il arrive bien souvent qu'on accorde de l'importance à l'intention dans le sens que nous cherchons donc à distinguer, comme nous l'avons vu, les adorations les unes des autres, les adorations de ce qui est surérogatoire ou les adorations de ce qui relève de l'habitude, car cela concerne la validité de nos œuvres. Mais parfois, on peut être mené à négliger ce point très important qui est l'intention dans le sens de la sincérité. La sincérité, c'est le fait de rechercher l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala et sa récompense dans l'au-delà. Et c'est là quelque chose de plus difficile. Soufiane al-Thawri, rahimahullah ta'ala, disait « Je n'ai pas lutté autant que contre mon intention, car elle cherche sans cesse à m'échapper. » L'intention, dans le sens ici de la sincérité. Le fait de surveiller son intention, sa sincérité, de ne pas tomber dans la duplicité, dans l'ostentation, dans le fait de rechercher l'agrément d'autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est un combat de tous les jours, de tous les instants. C'est d'ailleurs pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, « Voulez-vous que je vous informe de ce que je crains le plus pour vous que le faux Messie ?» Ils ont dit, « Évidemment, au messager d'Allah. » Il a dit, « C'est l'ostentation. C'est lorsqu'un homme se lève pour prier et qu'il embellit sa prière à cause du fait qu'il a constaté qu'une personne est en train de le regarder. » Le prophète, alayhi salatu wa sallam, a craint l'ostentation plus que la tentation du faux Messie, étant donné que l'ostentation, c'est quelque chose de caché, et ce fléau est un fléau permanent, alors que les troubles causés par le faux Messie sont limités en temps. Yusuf ibn al-Asbat disait, et nous terminerons par cela, « Purifier l'intention de ceux qui la corrompent est plus dur pour ceux qui œuvrent que le fait de faire beaucoup d'efforts. » Le fait de fournir beaucoup d'efforts en apparence, c'est plus aisé en vérité que de purifier son intention de ce qui va venir la corrompre en termes d'ostentation, de duplicité, du fait de rechercher avec ses œuvres ce bas monde au lieu de rechercher l'au-delà. C'est donc un combat de tous les instants et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala la sincérité dans les paroles et les actes et je lui demande de nous assister et de nous faciliter à accomplir tout ce qu'il aime et agré. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بارك الله
Kadir Rahman.